problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
On est avec Fred Hermel. Salut Fred.
Hola chicos. Comment salut les amis.
Salut Fred.
Alors, Robert
Moreno.
Très
bien, tout va bien.
Ça va bien, bah, tant mieux. Robert Moreno, c'est une petite surprise de le retrouver là parce que c'est pas quelqu'un de très expérimenté, en tout cas en tant que numéro 1.
6 matchs en tant que numéro 1, puisqu'il a remplacé au pied levé, suite à la maladie de la fille de Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, de juin à novembre, avec un bilan très positif, 4 victoires, et notamment quelques minutes de football assez exceptionnelles, notamment face à la Roumanie, de cette équipe espagnole. Robert Moreno, 4 victoires, 2 nuls, une qualification comme premier de groupe, haut la main. Et puis la sensation que c'est inconnu, parce que s'il est inconnu en France, je peux vous dire qu'au mois de juin, il était inconnu en Espagne aussi. C'était l'éternel second de Luis Enrique. En plus, Luis Enrique est quelqu'un avec une forte personnalité, et Robert Moreno était quelqu'un qui n'existait pas du tout médiatiquement. C'était un entraîneur de club quand il a commencé très jeune à être entraîneur de tout petit club. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qu'on a découvert parce qu'il a remplacé au pied levé Luis Enrique. Une relation qui s'est quand même très mal terminée aussi, puisque Luis Enrique est revenu prendre le poste, il a écarté Robert Moreno, il s'est fait virer de la sélection espagnole de manière pas très élégante. Je vais pas vous cacher que le fait que Robert Moreno retrouve un club de haut niveau, enfin plutôt trouve un club, parce que ça sera sa première expérience en première division, va satisfaire beaucoup de gens en Espagne, puisque plein de gens de l'autre côté des Pyrénées avaient considéré que la manière dont il avait été écarté avait été un peu, en tout cas pas très élégante. Donc c'est difficile de vous dire si c'est un bon coach, parce que 6 matchs dans une phase de qualification qui a été franchement une balade, une promenade pour l'Espagne. Après, ce que je peux vous dire de ce que j'ai vu, c'est un entraîneur qui a des idées claires. Il est résolument porté vers l'attaque, ça c'est clair. Il fait beaucoup tourner, il essaye beaucoup de joueurs.
Ah, c'est bien. Avec les 70 ouais. joueurs à Monaco, il va avoir de quoi faire tourner.
Voilà, en tout cas, il va en essayer beaucoup, ça c'est clair. C'est ce qu'il a fait avec la sélection espagnole.
73 sous contrat, en comptant les joueurs en prêt dans d'autres clubs.
C'est nickel. Là, il a du matos. Ouais.
Après, il faut voir ceux qui sont inscrits.
C'est large de nos
divisions. Donc, j'imagine que c'est 23 ou 24 comme en Espagne. Mais il essaye beaucoup de joueurs. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les baronnies. C'est-à-dire qu'il avait expliqué, par exemple, que un Ramos, le capitaine, pas très performant, il n'aurait pas eu sa place garantie comme titulaire en sélection. Mm-hmm. Voilà, c'est quelqu'un qui a un vrai caractère.
Putain, dit qu'il est en sueur là.
Ouais, mais après, vous savez, on l'a vu en sélection, 6 matchs. Qu'est-ce qu'il va rendre dans le championnat français face à une équipe comme Monaco, qui a priori est quand même un peu compliqué à gérer en ce moment. Au niveau de la langue, je ne sais pas. Je peux pas vous dire s'il parle français ou pas. Mais bon, en tout
c'est
cas, c'est
si grave,
c'est quand même un parti. On avait beaucoup parlé de Marcelino Garcia Toral. Ça, je peux vous faire un livre sur lui, mais on connaissait très bien en Espagne, c'est un vieux routier du football espagnol. Robert Moreno, c'est quand même un grand inconnu, même pour l'Espagne.
Fred, donc, quand il a pris l'Espagne,
c'est un pari risqué quand même.
Il jouait avec un ou deux attaquants axial.
Non, il jouait avec un seul, parce que déjà en Espagne, c'est un peu compliqué. Mais enfin, déjà le problème en Espagne, c'était de savoir quel était l'attaquant. Parce que le gros problème des Espagnols, on le sait, c'est de trouver un vrai attaquant. Okay. Non, il a essayé beaucoup de formules. En général,
il est pas rigide sur son système.
Il a joué avec deux. Mais enfin, il faut pas parler de système quand on parle de. Moi, j'aime pas parler de système. D'ailleurs, quand je parle aux grands entraîneurs, ils ne parlent pas de système. Le meilleur système, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles.
Ouais, mais il est pas rigide.
En tout cas, c'est un bosseur.
Fred,
non, mais c'est pas un dogmatique. Okay. Ce n'est pas un dogmatique. C'est-à-dire que le système, il inventera le système avec les joueurs qu'il a.
Très bien.
C'est-à-dire, il va pas venir en disant je suis dogmatique, je vais jouer comme ça. Non,
c'est
pas le genre de la maison. Donc, il va étudier les joueurs. Je pense qu'il va beaucoup faire tourner parce qu'il voudra voir. Comment sont les joueurs en match Et je pense qu'on va tarder un petit peu, ça va traîner un petit peu avant de voir le véritable 11 de Roberto Moreno, qui, ouais, j'insiste, n'est pas dogmatique, un attaquant, deux attaquants, on verra. Enfin, ce qui compte, c'est
parce que la force de Monaco, c'est ces deux attaquants, et c'est juste pour voir si, contrairement à ce que Jardim a fait, où il a exilé Slimani sur le côté gauche, ce qui était totalement aberrant, si
il
lui,
a
fait
ça tout de même.
Ouais, mais même quand il a fait, avoue que c'était quand même très surprenant de le mettre Slimani sur un côté, alors que les deux dans l'axe, ça fonctionne. Bah, c'est grâce aux deux dans l'axe ensemble qu'ils ont le nombre de points qu'ils ont.
Il a fait sur un ou deux matchs, c'est deux pas matchs. Quelque chose qui s'est répété.
Mais même Jordan, sur deux matchs, c'est quand même une aberration.
Bon, en tout cas, on va remercier Fred. Vas-y,
non, mais simplement pour terminer là-dessus, et j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en Espagne aussi, on attend de voir ce que ça va donner.
J'ai l'impression que tu parles de Celades quand il arrive à Valence, Fred.
Ouais, mais Celades, on le connaissait.
Oui,
non, mais c'est un peu ça, mais Celades, on le connaissait. C'est-à-dire que Robert Moreno, vraiment, c'est un inconnu. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, personne ne le connaissait, à part les gens très pointus du football espagnol. Vraiment, enfin, c'est...
D'accord.
Mais il bénéficie quand même, et j'en terminerai là-dessus, d'une certaine cote de sympathie, parce que l'équipe a bien joué avec lui, et parce que la manière dont il a été viré n'a pas été très belle. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réjouiront de voir la réussite de Robert Moreno.
Ben, merci beaucoup, Fred. Merci d'être passé
dans
la
zone.
Très bientôt. Ciao, on va tout de suite retrouver Julien Laurence pour la 20e journée de Première Ligue. Salut, Julien.
Salut à tous.
Salut Julien. Parti sur les 11 de la décennie, voilà.
Et on est arrivé à Nivet.
Il n'y a pas beaucoup d'anglais. Moi, en coup de cœur, j'aurais pu mettre Wayne Rooney quand même. Pour te faire plaisir, Julien, mais aussi parce que.
Moi, j'ai mis Joey Barton.
C'est un super joueur.
Oui.
Il joue toujours Barton?
Non, il est entraîneur.
Il est entraîneur à Fleetwood en 3ème division.
Mais il s'amuse plus à mettre des nions dans le nez des autres entraîneurs dans les couloirs, apparemment.
Il y a eu une petite altercation. Bon, c'est rien. Connaissant Joey comme je le connais, c'est. Ah bon. C'était rien, ça, par rapport à ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il a fait par le passé. Oui, non, ça, c'est rien.
Ah, mais c'est quand même drôle d'avoir des gens comme ça pour idole, Jonathan.
On va pas faire.
Parce que c'est un chic type et c'est un mec qui est brillant.
Jonathan sur le divan.
C'est un mec qui est brillant, je suis désolé.
C'est
intellectuellement, c'est un mec qui est brillant.
On attendra pour la psychanalyse de
Jonathan. C'est brillant, Joey Barton.
Je le connais très très bien. C'est quelqu'un qui est brillant, qui a son caractère, bien sûr, et qui est très impulsif, comme on a pu le voir. Régulièrement par le passé, mais c'est quelqu'un vraiment d'intelligent, de passionné, de passionnant aussi. Et j'espère qu'il réussira dans sa nouvelle carrière d'entraîneur, parce que c'est quelqu'un vraiment très intéressant.
Alors on va parler de coach justement, et puis de matchs bien sûr qui se sont déroulés aujourd'hui pour la 20e journée de Première Ligue. On va commencer par le match qui vient de se terminer entre Manchester United et Burnley. La victoire de Manchester 2-0 avec un nouveau but d'Anthony Martial. Il n'y avait pas de Pogba qui était absent, donc on va d'abord parler peut-être du présent d'Anthony Martial. Encore une bonne performance pour lui ce soir?
Très bien, oui, son 10e but de la saison en Première Ligue. Son duo avec Rashford qui s'améliore de match en match, qui devient de plus en plus fort, de plus en plus intéressant. C'était leur 16e titularisation commune cette saison en Première Ligue. Ils ont marqué 19 buts tous les deux, 10 pour Martial, 9 pour Rashford. C'est vrai que quand t'en as un qui joue dans l'axe, l'autre qui joue sur le côté gauche pour Rashford, Martial dans l'axe, il se trouve très bien. Quand en plus tu rajoutes un Daniel James qui a été très bon aujourd'hui par sa vivacité, par ses courses, c'est vrai que offensivement, quand tu peux jouer un petit peu en contre, quand t'as des espaces, c'est vrai que ça peut faire très mal, et c'est ce qui était le cas ce soir. C'est bien. Alors ils sont encore inconstants, ils gagnent, ils perdent. On l'a vu notamment à Watford avec cette défaite 2-0, très difficile à expliquer. Mais quand même, il y a quand même des choses très positives à prendre pour Solskjaer dans cette équipe, même si après on peut toujours débattre sur Solskjaer et sa capacité à amener cette équipe un peu plus haut. Mais en tout cas, offensivement, entre Martial et Rashford, ça marcherait très bien.
Et puis là, au classement, ils sont plus très loin de la 4e place, même si Chelsea a un match en retard qu'ils joueront demain contre Arsenal. Ils sont à un point seulement, Manchester 5e, à un point de Chelsea. Donc ça donne sans doute des idées à Solskjaer. Sur Martial, juste rapidement, il a mis du temps quand même à éclore. Là, on a l'impression que ça y est, là, il s'installe dans cette équipe de Manchester, Jonathan et Damien.
Ouais, il s'affirme, comme on le disait, je crois que hier ou avant-hier, le problème de Martial jusqu'à présent, c'était sa régularité dans la performance. C'est-à-dire que parfois, pendant un mois, il était au top et puis ensuite, il disparaissait des radars. Là, on sent vraiment, depuis son retour en Europa League, il me semble, mi-novembre ou fin octobre, on sent un Martial qui retrouve pleinement ses moyens physiques, ouais, et qui fait mal. Et rien que dans les courses, justement, on voit la différence avec le Martial.
L'Euro 2020, en demi-teinte. Pour lui,
c'est ce que j'allais dire, c'est typiquement le genre de joueur, on sait que Deschamps l'aime bien, qui s'intégrerait parfaitement dans ce que Deschamps met en place. C'est un joueur Deschamps compatible à 100%.
Ah, mais il l'a déjà eu, hein, pourtant. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, il l'avait pris pour l'Euro. Et souviens-toi, ça s'était pas très, très bien passé.
Parce qu'il était encore titulaire.
Des problèmes dans l'attitude.
Ouais.
Des problèmes dans l'attitude qu'il a toujours eu partout, en équipe de France et à Manchester United.
Mais il y a du mieux là, quand même.
Ouais, il est en train de mûrir, sincèrement. Après, c'est des petits détails. Le fait que, par exemple, au départ de Romelu Lukaku cet été à l'Inter, que le club et Ole Gunnar Solskjaer décident de lui redonner le numéro 9, qui avait jamais été son numéro au club. Et pour quelqu'un comme Martial, par exemple, qui marche énormément à l'affectif, d'avoir cette responsabilité de porter le numéro 9 à Manchester United, ça lui a donné un surplus de motivation, un surplus de confiance aussi, et cette maturité-là un petit peu, de le fait de le repasser dans l'axe, alors qu'avant, c'est vrai qu'il jouait dans l'axe, parfois sur un côté, parfois dans l'axe,
ouais,
etc.
Bien sûr, Julien, ouais.
Ça aussi, le stabiliser, tu sais, dans cette position-là, ça l'a beaucoup aidé.
Tu sais, Julien, en fait, le pire dans tout ça, c'est que je te crois, c'est-à-dire que le fait qu'il ait le numéro 9...
Merci.
Je vais te donner la raison, c'est qu'en gros, il ait besoin de ça pour se sentir en confiance quand même.
Oui.
C'est-à-dire que
Ça fait peur.
Mais ouais, bien sûr, en soi, je veux dire, qu'est-ce qui parce que t'as pas le numéro 9 dans le dos, alors ça veut dire que ouais, tu vas pas.
Non, mais tu les connais, ces détails chez les joueurs, Damien, tu les connais.
Mais tu as raison, et c'est pour ça que je valide ce que tu dis, en plus, c'est ça le pire.
Mais je pense qu'il y a aussi autre chose, les gars. Et Julien, je pense que vu certains types de tabloïds que vous avez en Angleterre, je pense que le fait aussi que sa vie personnelle soit un petit peu moins bordélique, un petit peu moins exposée aux des réseaux sociaux et tout, je pense que ça l'a peut-être aidé, non, aussi.
Oui, sûrement. Et puis c'est vrai que il y a une interview de sa femme dans l'équipe ce matin sur dans leur série sur les WAGs. Oui. Très intéressante d'ailleurs. Elle met un petit tacle à Mourinho que les tabloïds anglais justement ont repris en faisant les gros titres et tout ça. Mais ça, je pense qu'elle s'y attendait. Mais après, oui, effectivement, que dans sa vie privée, ce soit beaucoup plus stable, ça a dû l'aider aussi. Après, il faut maintenant qu'il soit plus blessé. Et je pense qu'il peut vraiment faire une très bonne deuxième partie de saison.
Julien, tu nous parles de maturité. Sa maturité, elle risque fort d'être mise à l'épreuve à l'occasion de l'Euro si le sélectionneur le prend, parce qu'il en fera pas un titulaire.
Ah, ça c'est sûr. Ouais.
Et c'est là que Martial doit comprendre le rôle qu'il peut être amené à jouer, non seulement quand il aura du temps de jeu, mais aussi dans la vie d'un groupe à l'occasion de 5 ou plus, surtout plus, je l'espère, semaines passées avec ses coéquipiers.
Ouais. Et c'est là qu'il faudra qu'il montre justement qu'il a appris de l'Euro 2016 où effectivement ça avait été un petit peu compliqué dans la vie de groupe.
Alors on va parler de Tottenham. J'avais pas envie spécialement qu'on commence par la vidéo, mais c'est quand même l'un des faits majeurs de cette rencontre. Un but annulé, et c'est pas le premier de cette journée. Il y a eu plusieurs cas de buts annulés à cause de hors-jeu très très litigieux. L'arbitrage vidéo en Angleterre, alors nous on est très critiques là-dessus en France, mais en Angleterre j'imagine que ça doit faire aussi la une des journaux.
Ouais, c'est encore pire effectivement. Et quand t'as une journée comme aujourd'hui où effectivement dans quasiment tous les matchs, ou en tout cas pas loin, on a des incidents comme ça ou des problèmes avec la VAR. Enfin, problème avec la VAR, ça dépend.
Dépend si tu es pro ou anti-VAR. Voilà. Oui, c'est sûr.
Exactement, parce qu'effectivement, il y a des hors-jeux, que ce soit celui de Pukki pour Norwich contre Tottenham, pareil lors du match entre Brighton et Bournemouth, le premier match de la journée en début d'après-midi, où c'est pareil, il y a un but pour Brighton qui est refusé pour sincèrement, je sais pas, 2 centimètres peut-être sur un hors-jeu. Donc effectivement, ça a fait beaucoup parler. Alors ce qui énerve le plus les Anglais, je pense, c'est la façon dont la VAR fonctionne ici. C'est-à-dire que les arbitres ne vont pas voir eux-mêmes l'écran sur le bord du terrain pour se faire eux-mêmes leur idée ou changer leur décision.
Julien, sur un hors-jeu, c'est pareil en France. Hein. Sur le hors-jeu, c'est soit on leur dit hors-jeu ou pas hors-jeu et ils n'ont pas à se déplacer. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je sais bien. Non, je parlais pas spécifiquement pour le hors-jeu, mais la grosse controverse ici, c'est que finalement, les gens ne comprennent pas comment l'arbitre qui est sur le terrain, dans ce contexte-là, avec le stade autour de lui, ce ne soit pas lui qui décide au final pour un pénalty par exemple ou pour une main, enfin je sais pas.
Donc,
quoi.
Julien, tu nous dis une chose pour que ce soit clair. Moi j'ai cru voir des moniteurs bord terrain, donc ils les ont mais ils ne vont pas les consulter.
Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que quand la première ligue a décidé d'appliquer la VAR, de prendre la VAR pour la Première Ligue. Comme les Anglais ne font jamais rien comme les autres, ils ont dit, bah voilà, nous on va faire nos propres règles de la VAR. Et une de ces règles-là, notamment, est que l'arbitre n'ira pas voir l'écran, n'ira pas voir le moniteur lui-même. C'est quelqu'un qui est donc dans son car, régie, oui. Ou enfin dans oui, un bureau ouais. Pour ce cas-là, à Stockley Park, qui va lui dire s'il y a main, s'il y a pas main, s'il y a penalty, s'il y a pas penalty, s'il est à retirer parce que quelqu'un est rentré dans la surface trop tôt ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et c'est le gros problème ici, c'est que les gens comprennent pas pourquoi c'est pas l'arbitre qui prend au final la décision d'un match qu'il arbitre lui-même. Et donc on se demande qui arbitre finalement.
Mais c'est contraire aux règles. C'est contraire aux règles. C'est le central qui a toujours le mot de la fin, même si après, dans les faits, ça se passe un peu différemment. Mais là, t'es en train de nous dire qu'en fait, en Angleterre, il y a deux arbitres. Il y a le central et le VAR, mais qui ont exactement le même niveau hiérarchique.
Sauf que celui qui prend la décision la plus importante, la plus cruciale, puisque c'est celle de la VAR, c'est quelqu'un qui n'est pas au stade, qui n'est pas sur le terrain, qui voit le match à la télévision et qui donc ordonne à l'arbitre central qui lui est sur le terrain de prendre telle ou telle décision.
Bon, en tout cas, on a vu le hors-jeu là de Pouki, c'est terrible en plus parce que le joueur il fait un super appel.
Ouais, et puis surtout il y a un super ballon.
Super ballon, super appel, tout est parfait et ça se joue à un millimètre.
Mais justement après, Julien, au-delà de la VAR et tout ça, on va peut-être parler aussi de la défense de Tottenham.
Oui, on va en parler.
Qui a vraiment
donc 2-2 hein, contre le dernier Norwich. Hein.
2-2 et puis des placements approximatifs. Alors. C'est vrai qu'il y a le but un peu gag contre son camp de Serge Aurier. Mais au-delà de ça, son placement initial où il préfère protéger un côté et ne pas resserrer là, c'est de laisser un espace incroyable au sein de la défense centrale. Je veux dire, c'est juste incroyable. Et pareil pour Toby Alderweireld qui lui ne protège pas l'axe ballon but et qui préfère prendre un appel et laisser un mec tirer tranquille comme un penalty aux 16 mètres des buts adverses. C'est dingue en fait ses comportements.
Tout à fait. Et alors quand tu connais en plus Mourinho et le style Mourinho et la façon de travailler de Mourinho qui a toujours fait de ses équipes avant tout des équipes solides, de voir notamment si tu regardes les stats, ils ont toujours au moins encaissé un but depuis son arrivée. À part contre Burnley où ils ont gagné 5-0 à domicile et effectivement bon là il y avait en face c'était très très faible, mais sinon à chaque fois c'est un but, deux buts encaissés, même contre l'Olympiakos par exemple, trois buts contre le Bayern, bon ça dans un match comme ça, mais Wolverhampton a marqué, Chelsea a marqué bien sûr deux fois, Brighton a marqué, Norwich mais encore deux,
c'est incroyable. À la fin du match Mourinho, c'est la plus mauvaise défense je crois de Première Ligue depuis que Mourinho est arrivé,
exactement c'est ça. Et Mourinho après le match a encore dit je comprends pas ces erreurs qu'on fait, c'est toujours les mêmes, on prend toujours les mêmes buts. Il avait essayé de changer un petit peu en passant à une défense à 3 aujourd'hui, ça a duré que la première période, ça a duré 45 minutes, après il a tout changé. C'est difficile à comprendre parce que au moins s'il sacrifiait le côté défensif pour jouer beaucoup mieux offensivement, pour aller vers l'avant, mais c'est même pas le cas en plus. Donc il joue pas très bien offensivement, même s'il marque des buts et il gagne quand même des matchs, mais c'est assez pauvre dans le contenu finalement. Et en plus c'est une passoire derrière et ils sont un peu à la rue défensivement. C'est vraiment difficile à comprendre sur quoi, ou en tout cas l'axe de travail principal de Mourinho depuis son arrivée au club.
Alors Tottenham 6e avec 2 points de retard sur la 4e place sur Chelsea, mais qui a un match en moins, on l'a dit, contre Arsenal. Un mot quand même sur Ndombele qui était titulaire. C'est une petite surprise après les déclarations de Mourinho où en gros il a fait comprendre que Ndombele voulait pas spécialement jouer le match précédent et ça lui avait pas spécialement plu. C'est un peu surprenant de le retrouver sur le terrain.
Complètement. Il y a deux jours, donc, il a dit, il a absolument matraqué en conférence de presse en disant qu'en gros, dans l'attitude, c'était absolument un moins que rien. Contrairement, par exemple, à un Lamela qui s'était pas entraîné pendant 50 jours et puis qui était allé voir Mourinho en lui disant, moi, je suis prêt à mourir sur le terrain pour vous, à tout donner pendant 10 ou 15 minutes. Et en racontant cette anecdote-là, Mourinho mettait un gros tacle à Ndombele. Aujourd'hui, il est titulaire et à la fin du match, il dit, il a été phénoménal. Il aurait mérité d'être homme du match. Typiquement Mourinho dans le... Dans le contexte. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Et c'est bien pour Ndombele. C'est vrai qu'il a été, moi j'ai trouvé qu'il a été bon. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait hier ou avant-hier dans l'émission. C'est tout ce qui manque à cette équipe de Tottenham qui, dans la créativité, a du mal parce qu'Eriksen est souvent sur le banc puisqu'il est en fin de contrat et que Mourinho le fait pas jouer ou très peu ou en tout cas il le fait que entrer en cours de jeu. Et Ndombele, par sa capacité de percussion avec le ballon, à franchir les lignes, à faire des différences, etc., c'est exactement ce qu'il leur faut. Et pourtant, Mourinho, on a fait une gestion très bizarre en le faisant débuter que 2 matchs sur les 10 qu'il a entraîné depuis son arrivée.
Faudrait pas que ça soit un nouveau Pogba, quoi, comme avec les rapports conflictuels qu'il avait pu avoir avec
Pogba. Faudrait pas que ça se tende trop, tout à fait.
Ouais. Et puis, un mot quand même d'Everton, qui s'est imposé pour la deuxième fois, deuxième victoire en 2 matchs pour Carlo Ancelotti. Victoire 2-1 à Newcastle avec un doublé de Calvert-Lewin, qui est le seul buteur d'ailleurs d'ailleurs sous l'ère Carlo Ancelotti pour l'instant. Everton, 10e du classement, donc ça va bien du côté d'Everton.
Oui, ils ont trouvé le sourire, effectivement.
A changé les choses, ça se voit d'ailleurs, il y a déjà une patte Ancelotti.
Alors pas trop dans le jeu, il a encore changé de système tactique dans le match d'aujourd'hui. Il avait fait une défense à 3 contre Burnley pour son premier match où ils avaient gagné 1-0. Cette fois il était repassé à une défense à 4, un 4-4-2 un peu plus traditionnel en essayant de relancer Moise Kean, le jeune attaquant italien qui était titulaire en pointe. Mais ça a encore fonctionné, tu sens quand même qu'il aura redonné confiance. Ils sont assez solides défensivement, même si là contre Newcastle c'était un peu dur parce qu'en face j'ai trouvé que ça encore moyen. Mais c'est vrai que 6 points en 2 matchs, comme tu dis, remonte un petit peu au classement. Et puis il y a cette dynamique quand même positive sur laquelle il va construire. Alors il a des matchs très compliqués qui vont arriver pour lui, que ce soit en championnat.
Il va à Man City là.
Voilà, il y a Manchester City et puis après il y a Liverpool en Coupe d'Angleterre aussi, donc deux énormes matchs. Ça a peut-être un petit peu changé, mais c'est vrai qu'au niveau de la confiance et de la dynamique un peu positive, c'est exactement ce que Carlo voulait faire. Et il a réussi sur ses deux premiers matchs.
Et Djibril Sidibé alors, ça c'est, il avait été énorme lors du dernier match. Aujourd'hui, c'était comment?
Oui, c'était pas mal encore. Hein. C'était pas mal. Ouais. Il y a quelques bonnes montées. Il est intéressant avec le ballon, forcément, par rapport à ce qu'il peut faire, notamment sur ses centres. Il en était à 4 passes décisives sur ses 6 dernières titularisations avant le match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est pas mal. Il est moins décisif. Non, mais on se moquait un petit peu l'autre jour en rigolant par rapport à Seamus Coleman qui avait perdu sa place sur Sidibé. Mais il monte un petit peu en puissance et il a cette clause pour que son transfert soit permanent à 15 millions d'euros. Et je pense que pour un arrière droit comme lui, si Carlo Ancelotti continue à le faire progresser, ça peut être intéressant pour Everton.
Puis surtout intéressant pour l'équipe de France. Hein.
Si aussi, tout à fait.
Non, oui. tu n'es pas sûr, Damien,
en doublure, pourquoi pas.
En doublure de Pavard.
De toute façon, on sait très bien que ça ne bougera pas. Il y a une forte chance pour que
Je suis ravi de le revoir rejoindre à un bon niveau quand même. Parce que c'est quand même, je pense, potentiellement le meilleur latéral droit qu'on a dans le réservoir de l'équipe de France. Et puis si en plus il arrive à faire en sorte que Seamus ne sorte pas de l'équipe pour qu'il garde le rythme pour nous qualifier à l'Euro, tout va bien. Hein.
Après Julien, moi ce qui me dérange un peu dans ce Everton, c'est la manière dont ils ont été mis en difficulté de manière assez simple en soi, parce que c'est vrai que le plan de jeu de Newcastle, c'était de mettre des longs ballons sur Andy Carroll et de jouer les déviations d'Andy Carroll qui gagnait tous ses duels aériens de toute façon.
Et Joe Ellington aussi, ouais, les deux, voilà, les deux, ouais, les deux géants. Ouais.
Et c'est vraiment c'est assez basique, ils ont été mis en difficulté sur ces ballons là quoi.
Après il faut peut-être relativiser par rapport à ce rythme complètement dingue et débile aussi de cette période du Boxing Day où tu vois des choses en défense. Peut-être que si les joueurs avaient un peu plus de lucidité parce qu'ils sont un peu plus en forme, on verrait pas des aberrations défensives comme on en a constaté.
Ah oui, tu crois que c'est une question de rythme ça?
Non, de rythme, non, pas de rythme, c'est juste que t'es cramé. Quand t'es cramé, tu vois un peu moins clair.
Quand tu prends l'exemple que je te donne, c'est juste, au bout d'un moment, il faut avoir un peu du jeu, tu vas pas au duel avec lui, parce que de toute façon, tu sais qu'il va gagner tous les duels et tu t'occupes de ce qui se passe autour. Mm. Et là, non, on veut aller dans l'erreur, encore une fois. Et voilà, je trouvais ça assez simpliste, en fait, comme plan de jeu, et ça les a mis en difficulté.
Alors, je vous donne les autres résultats. Leicester qui s'est imposé à West Ham, il y a cette information quand même ce soir, Pellegrini viré, hein, Julien.
Ah ouais, 9 défaites lors des 12 derniers matchs de championnat, dont les 4 derniers matchs à domicile. C'était la crise déjà. Encore une fois, on en avait parlé récemment. On en a parlé tout à l'heure dans l'émission aussi, un peu plus tôt, avant l'after, où je disais, avant que ce soit officiel, qu'il avait très très chaud et que c'était très possible qu'il saute ce soir. Ben voilà, c'est fait. Maintenant, à eux de trouver le bon remplaçant.
Il y a Leonardo Jardim qui est sur le marché.
Voilà, tout à fait, pour revigorer tout ça un petit peu. Beaucoup de sourires, beaucoup de joie de jouer, de joie de vivre hein, chez Leonardo Jardim. Donc je sais pas si c'est ce qu'il faut à West Ham, mais en tout cas ils peuvent pas se tromper, parce que mine de rien ils sont quand même 17e à un point seulement d'avance, avec certains matchs de plus à jouer, mais sur Aston Villa et 3 sur Watford. Mais ça peut être compliqué pour eux par rapport à la relégation et au maintien, donc il faut faire attention et faut pas se tromper encore une fois pour trouver le bon entraîneur.
Manuel Pellegrini quand même, c'est la descente aux enfers hein. Bien qu'il était à Manchester City, il a été demi-finaliste de Ligue des Champions, finaliste effectivement d'Angleterre, au Real Madrid avant. Voilà, c'est le déclin, mais Monaco aurait pu aller le chercher à quelques heures près. Hop, du coup, ils ont pris Robert Moreno. Non, ça vous emballe pas, Manuel Pellegrini.
Je parle même pas le même profil.
Brighton, Bournemouth 2-0. Autre résultat, Watford qui s'impose contre Aston Villa 3-0 avec un nouveau but d'Ismail Assar, l'ancien Rennais. Et puis match nul entre Crystal Palace à Southampton. Un but partout. Tu restes avec nous, Julien, surtout parce qu'on va parler de cette 20e journée. La suite demain, Arsenal-Chelsea, ça sera au programme. Et on revient aussi sur les difficultés de Manchester City battu hier par Wolverhampton à Manchester City, méconnaissable. On revient donc sur la 20e journée de Première Ligue. Demain, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Wolverhampton et Manchester City, Sheffield au programme. On va commencer par ce qui était un choc il y a quelques années encore. Ce qui n'est plus vraiment un choc par la difficulté d'Arsenal, c'est Arsenal-Chelsea, Julien. La deuxième de Mikel Arteta à la tête des Gunners après le nul 1-1 contre Bournemouth. Et moi, j'avais été très surpris d'entendre la satisfaction. Alors, c'est de la communication évidemment, mais il était très satisfait de la rencontre de ses hommes, Mikel Arteta, après le match nul à Bournemouth.
Ouais, parce que donc c'est un match nul, un partout, mais là où je suis pas trop d'accord avec toi et plutôt d'accord avec lui, c'est qu'on a déjà
T'as
vu des changements dans la façon de jouer.
Avec moi.
Non, mais je vais t'expliquer. Non, mais je vais juste t'expliquer pourquoi. Je comprends effectivement la. Bon, voilà, en soi le résultat est pas très bon, même si un match nul à l'extérieur dans le contexte actuel pour Arsenal, tu peux prendre. Mais dans la façon de jouer, dans le plan de jeu, dans le côté tactique de la rencontre pour Arsenal, il y avait des choses vraiment très intéressantes. Les joueurs l'ont ressenti, les joueurs me l'ont dit aussi. Et c'est vrai que t'as vu par exemple la position des latéraux très différente de ce qu'on avait pu voir avant sous Emery, sous Ljungberg bien sûr, mais aussi sous Wenger. La façon dont ils repartaient de derrière pour construire le jeu, pas systématiquement comme sous Emery, parce que parfois ils ont allongé, parce que c'est complètement suicidaire de vouloir jouer systématiquement depuis derrière. Mais la façon dont Xhaka se positionnait en presque comme un arrière latéral gauche avec Davis Luiz et Sokratis dans l'axe pour justement reconstruire de derrière, c'était intéressant. La façon dont Aubameyang et Ozil ont joué entre les lignes, voilà, les demi espaces côté droit pour Ozil, un peu plus côté gauche pour Aubameyang derrière la casette. Il y avait plein de choses vraiment intéressantes. Il y a un autre truc que j'aime, par exemple, c'est que ce soir l'équipe s'est entraînée à l'Emirates, ce qu'il ne faisait jamais depuis très 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 longtemps, parce qu'Arteta a voulu que, avant un tel match comme celui de demain après-midi, et ben qu'il puisse trouver des repères par rapport à ce que lui veut que l'équipe mette en place demain contre Chelsea sur le terrain du match et pas au centre d'entraînement. Et je trouve que ça aussi c'est intéressant. Il amène des nouvelles choses. Ça veut pas dire que ça marchera et que forcément il va reconstruire très vite et que cette équipe pourra rivaliser de nouveau très vite avec Liverpool, Manchester City, mais au moins tu sens qu'il a des idées, qu'il change les choses un petit peu, que c'est un nouveau discours, un nouveau souffle, et ça je trouve que c'est intéressant.
12e de Première Ligue Arsenal, 12e avec 24 points seulement.
Ouais, moi, Julien, ça va être une opposition de style intéressante justement, parce que Arteta qui prône lui un foot de possession, et on sait que Chelsea est plus à l'aise lorsqu'il n'a pas le ballon, donc ce qui risque de se passer demain. Et donc voilà, je voulais savoir ton sentiment, savoir si Arteta va s'adapter aux qualités de Chelsea et peut-être dans ce cas-là leur laisser un peu plus le ballon.
C'est ça, il va falloir voir demain effectivement. Arteta avait joué en 4-2-3-1 contre Bournemouth. Est-ce qu'il va garder le même système demain ou changer justement pour s'adapter un petit peu, tu as tout à fait raison, au jeu de Chelsea qui, en tout cas, eux les Blues s'expriment beaucoup mieux quand ils ont un petit peu d'espace pour Willian, pour Pulisic, pour Abraham, pour Kovacic aussi au milieu de terrain, hein. Dès qu'il lui a un peu plus d'espace pour créer du jeu, c'est plus facile. En revanche, Chelsea a beaucoup plus de mal contre des équipes qui jouent assez bas avec un bloc bas plutôt bien organisé. On l'a vu contre Southampton lors du Boxing Day où ils ont perdu, pareil à domicile contre West Ham ou Bournemouth ces dernières semaines. Donc ce sera vraiment intéressant. Sur le papier, je pense que Chelsea est légèrement favori justement par rapport à ça, parce que ça devrait être un match qui leur convient mieux dans sa physionomie, en tout cas comme ça là en prévision de ce qui pourrait se passer.
Comme face à Tottenham.
Mais voilà, comme face à Tottenham. Tout à fait. Mais après, c'est un match intéressant. Et ouais, exactement. Mais Arsenal, en cas de victoire, reviendrait à 5 points de cette quatrième place et donc de Chelsea, et ça relancerait un petit peu cette course à la quatrième place. Ouais. C'est tout ce qui nous reste, hein. Vraiment en Première Ligue avec la bataille pour la relégation. Mais sinon, c'est tout ce qui nous reste entre Tottenham, Chelsea, Manchester United, Arsenal, plus les surprises Wolverhampton et Sheffield United. Donc, ça pourrait être intéressant en cas de victoire d'Arsenal de relancer encore un petit peu tout ça.
Chelsea qui a perdu effectivement cette semaine à domicile et qui voit donc sa quatrième place menacée. Un point d'avance sur Manchester, on l'a dit. 2 points d'avance seulement sur Tottenham.
Et 3 sur Tottenham, non?
Non, 2 points d'avance, puisque Tottenham a pris un point.
Ah oui, c'est vrai.
Il n'a pas suivi, on vient d'en parler juste avant. Pardon. Ils ont pris un point contre Norwich.
Pardon.
Non, c'est pas grave.
Excuse-moi.
Non, mais me coupe pas dans ces cas-là.
Pardon. Pardon. Mes excuses les plus plates, François. Pardon.
Donc voilà, Arsenal-Chelsea, 15h, donc pour ce match de Première Ligue à suivre évidemment sur RMC, sur RMC Sport 1. Liverpool-Wolverhampton. Wolverhampton, alors ça c'est un match à pas rater. Honnêtement Julien, quand on a vu la performance de Wolverhampton hier contre City, la performance de Liverpool contre Leicester, ça promet du spectacle.
ça promet. Alors Wolverhampton hier, c'est vrai, un retour incroyable, ils étaient menés 2-0. Alors ils ont joué quand même à 11 contre 10 pendant 80 minutes hein, après l'expulsion de Ederson dans les buts pour City, donc ça les a forcément aidés. Mais c'est vrai que Raúl Jiménez, qui est un super attaquant, un super avançant, le Mexicain, c'est vraiment dans le travail pour l'équipe, dans les appels de balle, dans le jeu sans ballon, dans le jeu dos au but, c'est assez incroyable. Adama Traoré, Hulk, parce que c'est le joueur le plus musclé que j'ai vu dans avec Hakim Fenway, c'est le joueur le plus musclé que j'ai vu dans l'histoire du football.
Alors qu'il était tout fin quand il était au Barça,
Alors qu'il était au Barça, effectivement, il était beaucoup plus fin, mais là, et puis surtout la façon dont il percute avec le ballon, dont il prend des risques dans les dribbles, dans ses démordements, dans les centres, il y a du déchet forcément.
Il est Benjamin Mendy hier.
Et puis là, Benjamin Mendy, une erreur comme ça à ce niveau-là, c'est assez impardonnable. Donc Wolverhampton, qui est devenu la deuxième équipe dans l'histoire de la carrière de Pep Guardiola comme entraîneur, simplement la deuxième équipe à faire le doublé, en gagnant deux fois dans la saison domestique face à une équipe de Guardiola, après le Chelsea d'Antonio Conte en 2016-2017. Sinon, aucune autre équipe, quand il était à Barcelone ou au Bayern ou donc à City, n'a réussi à le battre deux fois dans la même saison en championnat. Donc c'est assez incroyable quand même de la part de Wolverhampton et de Nuno, leur entraîneur. Et puis ça promet parce qu'effectivement, avec eux, ils sont capables d'aller à Liverpool et jouer sans leur 3-4-3, sans avoir aucune pression, avec beaucoup d'insouciance, et d'aller essayer de bousculer cette équipe de Liverpool qui, pour l'instant, est quand même dans un fauteuil assez royal.
Et Julien, même pas 48 heures de récup pour les Wolves, alors que Liverpool, en plus, dans ce calendrier de malade, Liverpool, en revanche, les a. Ils ont joué
un jour de plus. Ouais. Ils ont joué la veille contre Leicester, mais ils reviennent du Qatar aussi. Ils ont passé quand même une semaine au Qatar.
On va noter quand même que Romain Saïs s'est quand même bien imposé dans cette équipe-là aussi.
Alors oui, il a retrouvé sa place de titulaire parce qu'il y a eu des blessés. Willy
Boly, joueur d'Angers,
de Clermont éventuellement. Aussi.
Avec qui j'ai joué. J'en parle.
Ah oui, Damien, t'as joué avec lui. Pardon, Julien, vas-y.
Non mais c'est un super joueur et c'est vrai que dans ce que lui demande Nuno, dans ce 3-4-3 encore une fois de Wolverhampton, il est très efficace défensivement et même avec son pied gauche sur les diagonales qu'il faut pour changer le jeu, orienter le jeu, il est aussi très bon et c'est vrai qu'hier il a fait un très bon match, encore une fois à 11 contre 10 mais quand même et c'est vrai que c'est intéressant, ils ont un groupe intéressant, c'est une histoire fascinante hein, Wolverhampton qui est une équipe historique du football anglais ici qui est descendue en 3e division, qui est remontée, qui a Jorge Mendes comme directeur sportif officieux et effectivement qui fournit énormément de joueurs à ce club, sinon Ruben Neves ne serait jamais arrivé à Wolverhampton quand il était en Championship. João Moutinho serait pas là non plus effectivement, et Jiménez non plus, mais Mendes fait du très très bon travail et c'est une équipe qui est toujours qualifiée en Europa League, qui la saison dernière a fait une très bonne saison et qui cette saison, alors qu'ils n'avaient pas gagné un seul match lors des 6 premières journées, première victoire lors de la 7e journée, fait aussi encore une fois un très très bon championnat.
Ouais, c'est une des équipes qui joue le mieux en Angleterre.
Il faut vraiment rendre hommage à Nuno Santos. Alors,
excuse-moi François Pinet, si on t'a pas suivi, hein, peut-être que tu l'as dit, mais Leicester joue contre qui demain? Ou Leicester a joué déjà?
Leicester a joué, oui. Leicester a gagné à West Ham, 2-1.
Donc il y a toujours 13 points d'écart. Non, c'est revenu à 10 et ça peut repasser à 13 demain.
10, mais il y a deux matchs en moins pour Liverpool.
Oui, mais on est d'accord, voilà, Liverpool, c'est fait, hein, le titre.
Non, évidemment que c'est fait, mais il n'y a plus aucun intérêt à suivre. Enfin, ils suivent les Reds en Champions, hein, du coup.
Bah, Liverpool, Wolverhampton, on te dit quand même qu'il faut suivre parce qu'il peut quand même se passer quelque chose.
Je pense qu'au niveau du jeu, ça va être super intéressant à voir, en tout cas, avec deux philosophies qui peuvent se ressembler, ça peut être sympa à regarder.
Voilà, ça sera à 17h30.
3-2 facile, hein.
Et puis merde, ça passe nous en plus, donc.
Exactement.
Et en plus, donc on va se régaler.
Non, mais François, pour que tu restes intéressé par Liverpool en championnat, il y a plusieurs objectifs. Bon, déjà essayer de finir la saison sans défaite comme les Invincibles d'Arsenal. Donc on en est ils ont joué 18 matchs, 17 victoires, un match nul. Est-ce qu'ils perdront un match cette saison? C'est la grande question. Je pense que oui, à un moment, parce qu'ils ont tellement de compétitions à jouer avec la Ligue des Champions, avec la Coupe d'Angleterre aussi. À un moment, ça a peut-être pesé un petit peu dans les jambes pour la Première Ligue, mais c'est une des questions ici. Ils en sont à 34 matchs de suite sans défaite en Première Ligue. Le record d'Arsenal, c'est 49. Est-ce qu'ils arriveront à se rapprocher de ce record? C'est possible aussi. Klopp en a parlé encore aujourd'hui dans sa conférence de presse. Il y a cette série d'invincibilité à domicile aussi qui est encore plus longue. Ils en sont à 43 matchs, je crois, à Anfield sans défaite en Première Ligue. Est-ce qu'ils pourront se rapprocher du record de Mourinho avec Chelsea qui était de 64, je crois, à Stamford Bridge lors de son premier passage? Voilà, il y a tous ces records-là qui sont dans leur corde et qui pourront te permettre...
Julien, tu prêches un convaincu, ok, par rapport à Liverpool et toutes ces statistiques colossale que tu nous énonces. Après, moi, dans cette période, une équipe avec 24 heures de récup de plus, quand c'est sur des deltas de un jour ou maximum 48 heures, je vois voir deux équipes de foot cramées pour voir des buts.
Bon, Liverpool a l'effectif pour faire un petit peu tourner, même s'il tourne rarement, remarque.
Quand on parle d'équité, Liverpool en plus a une profondeur de banc plus importante, donc ils ont un double avantage sur les Wolves. C'est ça,
c'est
moi,
vrai. Non, mais tu as raison, mais c'est
mais bon, c'est que mon avis.
Il y a du mieux en Angleterre à ce niveau-là, dans le sens où, je crois, on en parlait avec Damien l'autre jour, que cette année, on va avoir enfin une petite trêve. Certes, pas à Noël comme pour tout le monde, parce qu'encore une fois, les Anglais font rien comme les autres, mais il y aura une petite trêve qui va arriver au mois de février, où ils pourront se reposer un petit peu, notamment en vue de la Ligue des Champions, même si la saison dernière, comme Damien me l'avait rappelé, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de problème avec ça, puisqu'ils ont, ils ont quatre clubs en finale. Mais voilà, ils vont avoir cette petite pause, mais c'est vrai qu'à Noël, et Klopp et Rodgers et Mourinho en parlaient encore cette semaine. C'est vrai que c'est un calendrier complètement hallucinant, quoi.
Klopp parlait pas de crime, c'est pas le terme, mais il disait que c'était criminel, voilà.
Ah, c'est suicidaire, ouais, tout à fait. Non, mais après, c'est la culture, il faut faire avec, c'est pareil pour tout le monde, mais c'est vrai qu'après, t'as ces petits avantages par-ci, par-là, d'une journée de plus de récupération, parfois deux journées de plus, et c'est vrai que ça peut quand même faire basculer des rencontres.
Et puis alors Manchester City quand même, parlons du cas Guardiola. Manchester City, c'est contre Sheffield demain, a priori Manchester City est largement favori. Guardiola qui a enterré les chances de son équipe d'être championne d'Angleterre, mais là on est tous d'accord avec lui, 14 points d'écart, pour lui c'est un écart trop grand. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est ces deux chiffres, Julien. Il y en a un, c'était hier, alors c'est un cas particulier, parce que Manchester City était à 10 contre 11 contre Wolverhampton, mais 37,8%, c'est la possession de balle de l'équipe de Manchester City. C'est un record de la plus faible possession pour une équipe de Guardiola. C'est son record.
Ouais, mais à 10 contre 11 pendant 80 minutes, celle-là pour moi elle veut rien dire du tout, cette statistique, parce que je veux bien que Guardiola soit un génie, mais c'est pas Harry Potter non plus, c'est pas un magicien.
Il a fait quand même des changements pour essayer de blinder derrière. Bon, après il menait 2-0 effectivement, mais il a essayé
il menait 2-0.
Et c'est pas dans son habitude non plus de blinder, de jouer défensivement, ou en tout cas de laisser la balle à l'adversaire, même à 10 contre 11, enfin je pense.
Peut-être, mais à 10 contre 11, c'est quand même pendant autant de temps, c'est compliqué, contre une équipe contre Wolverhampton qui est très physique, qui a aussi beaucoup de ballon, qui joue très très bien au ballon, qui sait faire courir le ballon, et donc faire courir ton équipe à toi, qui a déjà un joueur de moins, c'est compliqué. Pour moi, cette stat, elle veut vraiment rien dire. Après, effectivement, il a peut-être fait des erreurs dans son coaching. Moi, j'ai du mal à comprendre comment il a pu sortir Kevin De Bruyne, alors que son équipe menait 2-1, que c'était le seul joueur qui t'avait apporté une touche technique brillante sur le deuxième but de Sterling, notamment avec cette ouverture incroyable en une touche de Bruyne. Si vous l'avez pas vu, il faut vraiment aller regarder, parce que c'est un but exceptionnel. La passe de De Bruyne pour Sterling, elle est extraordinaire, et le fait que tu le sortes alors que c'est ton joueur qui a peut-être le plus gros moteur physique pour couvrir les espaces justement quand t'es à 10, et surtout techniquement, ouais, mais... ton meilleur joueur, bien meilleur que Rodri, j'ai pas trop compris pourquoi il a sorti. Après, effectivement, c'est une défaite. Je pense qu'il y a des statistiques et des chiffres, François, qui traduisent plus la crise entre guillemets que ce que...
Oui, alors après, il y avait d'autres chiffres. C'est les 5 défaites cette saison. Il y a aussi le chiffre de nombre de buts encaissés, 23 en 19 matchs.
Et c'est là le plus important,
celui-là. C'est déjà autant que sur l'ensemble de la saison dernière.
Julien, le vrai problème de cette équipe, c'est que derrière, ils ont pas des défenseurs qui sont au niveau de la qualité du reste de l'effectif.
C'est un problème aussi. Alors je pense pas que Guardiola soit le seul fautif, mais il en fait partie, au niveau du planning et de l'organisation par rapport à cet effectif qui est vieillissant sur certains postes, notamment Fernandinho qui avait été remplacé entre guillemets, on va dire, par Rodri, c'est
Otamendi sûr, aussi hein.
Mais Otamendi c'est très compliqué, John Stones c'est très compliqué. À partir du moment où Laporte est plus là, c'était la crise défensivement. À gauche, que ce soit Zinchenko, Benjamin Mendy ou Fabian Delph, même avant qu'il quitte le club, ça aussi est très compliqué. Et je pense que dans le planning de la part de Chiqui Bégarich, directeur sportif du club, et de Guardiola sur comment construire cet effectif là, il y a eu des gros manquements, des grosses erreurs de fait dans le recrutement de certains qui n'ont pas été au niveau.
Ou Stone, en tout cas, s'ils le prennent combien?
Ils le prennent à Everton pour 50 millions.
Et t'imagines? Ouais.
Après, ils ont sûrement pensé qu'il allait progresser plus que s'il a progressé.
Le souci aujourd'hui, c'est que dans le style de jeu que veut Guardiola, à savoir être très haut sur le terrain, et je me répète, mais c'est vrai qu'ils sont mis en danger dans chaque ballon en profondeur. Dès que t'as un ballon dans le dos, et que t'as des bombes devant, comme c'était le cas à Leicester avec Vardy, ils sont en difficulté. Et là, on parlait des buts encaissés.
Carton rouge,
mais ça aurait pu être, mais bien sûr, quoi, avec
Ederson. La passe, elle est plein d'axes. Hein.
Mais surtout, mais ça peut être beaucoup plus que ça. Ils peuvent encaisser plus que ça. Ils
s'en tirent très bien, même. C'est une difficulté. Oui, tu le dis, et c'est une double difficulté compte tenu des axios, enfin des deux centraux,
c'est ça.
Qui sont.
Bah, c'est ça le problème, oui.
Faire le boulot.
Le problème, c'est qu'il faudrait, il faudrait qu'ils prennent. Hein. Je pense que dans, c'est en fait là où ils se sont trompés, c'est dans le profil des défenseurs centraux qui sont recrutés, oui. Que ce soit Laporte ou Stones. T'as besoin d'un mec qui soit hyper rapide quand même. Au moins un sur les deux qui puisse aller en couverture justement pour éviter de se faire prendre dans le dos comme ça là.
50 mètres dans le dos.
Bah ouais, il t'en faut au moins qu'il soit rapide.
Ce qui leur a fait très mal aussi, c'est le fair play financier. Sincèrement, Guardiola cet été expliquait qu'ils auraient voulu prendre Maguire, qui est parti donc pour 90 millions à Manchester United.
C'est pas le plus rapide. C'est pas le plus rapide financièrement.
Non, mais. Mais peu importe, c'est plus sur le fait que il y a sûrement eu des transferts qu'ils auraient voulu faire, qu'ils n'ont pas pu faire à cause du fair play financier. La période où Manchester City pouvait dépenser 200 millions d'euros sur un été en transfert, c'est terminé, ça. Ils le savent très bien. Ils ont l'UEFA, la fédération anglaise, la Premier League, qui sont derrière eux parce qu'ils ont justement le fair play financier. Et les comptes qui sont pas vraiment équilibrés, et ça, je pense que ça pourrait leur faire très très mal à un moment s'ils faisaient pas attention justement, et c'est ça aussi qui les a empêchés peut-être de recruter les joueurs qu'ils voulaient lors du dernier marché des transferts, et peut-être qu'il les empêchera aussi lors du mois de janvier là de faire ce qu'ils veulent au niveau du recrutement.
Ouais, mais Guardiola est toujours à la, alors évidemment il se renie pas, mais il est toujours dans cette limite du déséquilibre. Parce que j'ai la possession, parce que j'ai un jeu offensif, parce que mes joueurs, j'ai de la qualité devant, mais je prends trop de risques derrière. Alors ça fait le charme de cette équipe, mais ça fait aussi les résultats que l'on a et les statistiques qu'on a énoncées tout à l'heure par rapport à une défense qui est une passoire.
Et puis aussi, sincèrement, je pense que psychologiquement, mentalement déjà pour les joueurs, pour Guardiola aussi, physiquement aussi, après les deux saisons qu'ils viennent de faire à 100 points et à 98 points, une troisième saison à ce niveau-là, c'était impossible. Sincèrement, c'était impossible. Il y a forcément un moment où ton corps et ta tête, elle répond pas forcément de la même façon au même contexte dans les matchs, aux mêmes situations et qu'il y a peut-être aussi un peu moins de réussite que tu avais l'année dernière ou celle d'avant. Par exemple, ils ont déjà perdu 19 points cette saison. Ils ont lâché 19 points en route.
C'est énorme.
En 19 matchs, donc. Ce qui est déjà plus que toute la saison dernière réunie, vous avez perdu que 16 points.
Ça rappelle un petit peu
la première saison Guardiola où il avait eu du mal un petit peu à s'adapter au football anglais. Et par rapport aux deux dernières saisons, c'est vrai que c'était quasiment impossible qu'il soit capable de refaire une troisième saison pareille.
Est-ce que, justement, le fait qu'il soit décroché et qu'ils aient dit adieu au titre de champion, ça peut les rendre encore plus dangereux pour la Ligue des Champions?
Il joue au Real, on le rappelle.
C'est quelque chose derrière lequel court Guardiola depuis un moment. Ça peut être pour le coup dangereux pour les équipes qu'ils vont affronter en Ligue des Champions. N'en t'y crois pas toi Jonathan.
6.
Vas-y Julien.
Non mais juste c'est, oui bien sûr, parce que c'est le, de toute façon c'est le graal absolu hein, c'est le rêve et de Manchester City et de Pep Guardiola qui, donc comme tu l'as dit, n'a plus gagné depuis 2011 la Ligue des Champions, qui va d'échec en échec, que ce soit en demi-finale comme avec le Bayern par exemple systématiquement contre un club espagnol, ou avec City en quart de finale, que ce soit contre un club anglais, c'est compliqué pour lui. C'est vrai que c'est le rêve ultime pour lui de retrouver ce sommet là s'il continue à défendre pareil avec ses défenseurs là c'est impossible. Même si tu peux te sortir peut-être du Real Madrid avec le match retour à domicile, je vois pas comment après, quand le niveau va encore s'élever,
Julien,
c'est pas
possible. Trop compliqué. Julien, je pense que le Real Madrid, en termes de style, tu vois, je te dis pas que le Real Madrid est une meilleure équipe que Manchester City, hein, mais en termes de style, c'était un des pires tirages que City pouvait prendre. Parce que ils vont à 1000 à l'heure devant, en contre, ils sont très très forts. Et quand tu vois la vitesse qu'ils peuvent mettre sur les côtés et la manière dont ils ressortent les ballons et en contre-attaque, va falloir vraiment resserrer les boulons derrière pour City.
Ça va être très compliqué. Et puis après aussi, tout ce que ce match va représenter pour Guardiola, pour lui, le porte-parole de l'indépendantisme catalan, tout ça, de retourner à Madrid pour le premier match où tout le monde ne parlera que du côté politique et pas du tout du côté sportif. Je pense que ça va le rendre fou. Ça va être c'est un match piège par définition. Alors si tu te fais en plus éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions et que t'es déjà largué à 20 points de Liverpool au mois de février, je pense que là, le pauvre Pep, il va sauter du 20e étage et
il a dit qu'il restait.
Et puis le club l'a confirmé encore aujourd'hui.
Après, les dirigeants.
Ouais, mais c'est. Non, ça serait quand même un peu gonflé, ouais.
Ce serait énorme. Après, ça fera 4 saisons. 4 saisons, c'est le maximum qu'il a fait donc à Barcelone avant de prendre son intérêt sabbatique. Il a fait 3 ans après au Bayern. 4 ans à Manchester City. Il se plaît quand même en Angleterre, il se plaît à City, mais cette saison, elle peut laisser énormément de traces. Hein. S'il y a vraiment cette désillusion en Ligue des Champions contre le Real, si en plus tu te fais humilier par Liverpool et que tu perds encore plus de points dans la seconde partie de saison et que tu finis 3e ou 4e, par exemple, ce qui est très possible, je ne sais pas comment lui va gérer ça, lui, avec son côté obsessionnel du football, obsessionnel des résultats, obsessionnel de la façon de jouer. Ça pourrait être très compliqué pour lui cet été.
Ok, Julien, bah merci beaucoup. Merci. Salut, pour Julien. Ce tour complet de la 20e journée.
Merci à vous, bon quiz, les gars.
Merci. Écoute, bon samedi soir à tous. Et puis tu peux jouer si tu nous écoutes aussi. Voilà. Enfin, tu peux jouer, mais sans, pas à l'antenne, quoi, évidemment. Merci, Julien. On te retrouvera demain, évidemment, pour parler donc de ce Arsenal, Chelsea, Liverpool, Wolverhampton et Manchester City, Sheffield. Trois affiches à suivre en Première Ligue demain sur RMC Sport 1 et sur RMC Sport.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.